Je me suis permis de vivre un petit fantasme radiophonique.
Qu'on t'entende pendant trois heures de Romanesco.
Non, ça, pas cette partie-là.
De parler de manga, tu veux dire.
Pouvoir parler de manga, d'animé, une petite passion à moi. Je me permets d'aborder. C'est pas évidemment quelque chose que, dans un cadre d'émission d'actualité, j'ai à faire souvent, pour dire rarement ou jamais. Donc, c'était bien, bien, bien agréable, super le fun de participer à ça avec l'équipe de la Co-op Zone une fois par mois. Il va probablement en rester une autre d'ici la fin de la session, là, donc je connais pas encore le thème. Manquez pas ça, c'est toujours le premier ou le dernier jeudi du mois, là, vous voyez un peu le genre. Et j'abandonne Aziliz, qui apparemment s'ennuie pas du tout de moi.
Ça va. Il y avait de l'actualité qui est tombée à 11h, donc j'avais de quoi m'occuper,
oui,
on va dire.
Oui, c'est ça, il y avait pas de manquement. Très heureux de vous accompagner donc pour cette prochaine heure et demie. Je l'ai rapidement dit à la fin de la dernière émission, mais invité particulier à 12h30, c'est Jean-Philippe, de la cuisine de Jean-Philippe, le chef vegan, je pense, le plus connu au Québec. Honnêtement, là, j'en vois pas un autre qui a son type d'influence, surtout sur les réseaux sociaux. Donc, bien hâte de lui parler à 12h30. Je sais que ma blonde, quand je lui ai annoncé, elle qui est végétarienne, m'a dit « Ah, là, je vais t'écouter ».
Oui, ben moi j'ai découvert quand tu m'en as parlé, mais pour le coup, en étant végétarienne, j'étais là genre « Oh, plein d'idées de recettes, c'est super ».
Oui, c'est super. C'est bien. Moi, c'est de savoir la partie que ma blonde m'écoutait pas et elle m'écoute seulement parce que lui, il est là. Il y a un petit peu de jalousie.
Un peu dur, là.
Non. Donc, on a un programme bien plein avec vous aujourd'hui. On va s'attaquer notamment, encore une fois, du nouveau dans le dossier de la LHGMQ. Aziliz va nous en parler un peu plus tard, aussi de la grève des professeurs. Il y a du neuf là-dedans.
Oui.
Aussi des histoires de RPA, TikTok qui est encore dans l'actualité et des nouvelles du tramway. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé du tramway.
Ça fait bien une semaine qu'on n'a pas parlé.
Tu sais que c'est un sujet d'actualité important quand une semaine, c'est long sans en parler. Mais là, on va pouvoir vous donner quelques nouvelles là-dessus avec les annonces des chantiers du côté de la Ville de Québec hier. La première nouvelle, par exemple, qu'on va aborder, là, je vais redire le ton assez rapidement, vous me le pardonnerez. C'est je pense qu'il n'y a pas de meilleur mot qu'horrible, horrible histoire, qu'on peut lire dans le journal de Québec. Ça a été répondu d'ailleurs de la part de Christian Dubé, ministre de la Santé. On va y venir. C'est une octogénaire. Une octogénaire Gilberte Gosselin, âgée de 86 ans, s'est brisée une hanche en tombant. Va à l'hôpital. Jusque-là, tout va bien. Et on propose une chirurgie en disant que c'est peut-être la meilleure option, malgré les risques qu'il y a possibles à la santé. On se dit OK, parfait, pas de trouble. Quelques heures plus tard, son état s'aggrave de façon assez intense. On dit qu'elle est en fin de vie. C'est malheureux. C'est les choses qui arrivent. On va les envoyer. On leur promet, on va vous transférer dans une chambre avec un peu plus d'intimité pour vivre vos derniers jours dans la dignité. Ce qui semble de base dans notre société. Eh bien, cette nouvelle chambre ne sera jamais arrivée. Elle ne sera jamais arrivée. On l'aura transférée de place en place dans les urgences, avec des rideaux pour essayer de la séparer un peu, mais jamais dans un réel confort. On apprend aussi qu'elle aura passé plusieurs heures dans ses selles, dans les couloirs des urgences, alors la famille était toute là et continuait de dire hey, « Excusez-moi, on aurait besoin d'aide, on a besoin de quelqu'un qui nous aide. » On n'est pas capable de le faire. Et elle est dans ses selles. Ça aura duré quelques heures avant qu'elle soit changée. Pas de nourriture et pas d'eau. Pendant plusieurs heures, durant ces 48 heures-là, au point que dans sa dernière journée de vie, elle suppliait d'avoir accès à une rôtie. On lui a dit non. Finalement, elle aura eu accès, après un peu moins de 48 heures, à un Jell-O, pour dire. Et ça, il y a une partie sécurité. Pourquoi elle n'a pas eu une rôtie? C'est comprenable.
Mm-hmm.
On avait peur qu'elle s'étouffe. De l'eau, ça a été presque impossible de lui en trouver. On a parlé de la mettre sur une intubation, de lui donner de l'eau épaissie, tout ça. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été accompli. On l'a donc laissé mourir. Avec de la difficulté à avoir de l'eau, de la nourriture, à être changée, pendant près de 48 heures, dans la salle d'urgence de l'hôpital de Lévis, l'Hôtel Dieu de Lévis, pour être précis, on l'a laissé mourir de la honte. C'est le message clair. Après même sa mort, plusieurs heures avant que quelqu'un vienne constater le décès, Et t'as la fille qui est simplement dévastée, qui est seule, qui n'a aucun aide, aucun accompagnement, rien qui est fait. Elle tente de dire, s'il vous plaît, quelque chose, ma mère est en train de mourir, aidez-moi, faites de quoi? Rien. Rien, nada, niet. Et finalement, après avoir poussé son dernier souffle en matinée, vers 9h45 le matin, ben, on la transfère au salon de la famille. Et plutôt que de la rabier, pour l'envoyer dans un état, encore une fois, disons, de simple dignité, ben, une jaquette de papier bleu et du plastique autour des jambes. Merci, bonsoir. Sa fille, pour qui ça a été la goutte de trop, le rabier, avant qu'elle aille au salon de famille. Je cite là, la fille de la défunte qui dit qu'elle ne méritait pas de mourir à l'urgence de cette façon, sur un plancher sale, pas d'oreiller, avec juste une petite couverture, sans aucune intimité. Ce qu'on apprend, c'est qu'il y a eu des engueulades avec du personnel, il y a eu de la difficulté, et même un médecin qui était responsable de la dame a réécrit à la famille pour lui dire que ce qui s'était passé, c'était inacceptable, et qu'il s'en excusait. Et là, je vais préciser tout de suite. Comme toujours, dans ce genre de situation-là, je ne critique pas les individus. Parce que ce qu'on apprend, c'est que l'urgence était surchargée à ce moment-là. Des infirmiers, des infirmières qui couraient sûrement pour essayer d'arriver à donner un service minimal au plus de gens possible. Et c'est des gens comme Gilberte qui ont écopé. Mais ce système-là, c'est lui le problème. Un système qui se retrouve démuni de personnel, démuni de ressources, et qui ne permet même plus à nos aînés, à nos citoyens tout court, là, on s'entend, là, que ce soit un aîné ou non, à nos citoyens de mourir dans la dignité, de mourir sans avoir à endurer une couche pleine pendant plusieurs heures, à devoir supplier pour avoir de l'eau ou de la nourriture. Il y a quelque chose qui est brisé. Il y a quelque chose qui est brisé. Puis on peut bien essayer de me dire c'est juste une histoire, c'est juste... Ouais, mais une histoire de même, il y en a de temps à autre, assez régulièrement pour que ce soit pas juste une histoire. Et même si c'était juste une histoire, un système où ça, c'est possible, il y a quelque chose de brisé, d'inacceptable, qu'on ne peut pas tolérer. C'est ce qu'on a entendu du côté du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a commenté, après avoir eu les informations, il a dit que c'était inacceptable, que c'était troublant, qu'ils allaient s'assurer d'avoir un contrôle serré, de suivre la situation. C'est beau, là, mais l'enjeu, c'est pas l'enjeu de l'Hôtel-Dieu de Lévis.
C'est général, c'est partout.
C'est pas l'enjeu, c'est ça. C'est pas l'enjeu des infirmiers de là-bas. C'est pas l'enjeu des infirmières là-bas. C'est pas l'enjeu des préposés aux bénéficiaires là-bas. C'est pas l'enjeu des médecins là-bas. C'est l'enjeu de notre système de santé qui a été dévalorisé, surtout au niveau du personnel de soutien, sans rien enlever aux médecins, qui se tuent à la tâche, bien littéralement, à certains moments. Les infirmières, les préposés aux bénéficiaires qui voient leur métier n'être accordé presque aucune importance là, à certains moments au niveau de la valeur collective et surtout au niveau des conditions de travail, ben, tu dévalorises un système comme ça, tu te ramasses avec des histoires comme celle de Gilberte. Histoire absolument tragique, histoire absolument horrible. On ne peut qu'espérer qu'il y ait des leçons qui en ressortent, mais la partie cynique en moi dirait que c'est peut-être trop demandé. Historiquement, quand on regarde qu'est-ce qu'on voit là, dans nos... dans notre système de santé, c'est bien triste. Bien, bien triste que cette histoire de celle de Gilberte, nos pensées qui sont évidemment avec la famille de cette dame qui aura vécu de façon bien triste ces derniers jours. Dur la transition, vous me direz, mais on n'a pas le choix, il faut continuer. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité aujourd'hui. C'est particulier, je ne pensais pas que cette histoire-là prendrait autant le feu.
Ouais, moi non plus.
C'est hallucinant. TikTok, c'est une vague. Ce qui a parti par le Congrès américain a explosé partout au Canada. Ça a commencé par les fonctionnaires canadiens. Les fonctionnaires provinciaux au Québec, ça s'est rajouté rapidement. Et là, énormément, une quantité énorme de compagnies, que ce soit là, les commissions d'abord, ben, compagnies généralement au public, là, mais les commissions scolaires, les employés qui n'auront plus accès sur leur téléphone de travail, beaucoup de compagnies de transport qui se rajoutent, la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Hydro-Québec qui s'est racheté. La liste, elle est longue, elle n'arrête pas. Les députés de l'Assemblée nationale qui ont dit de vouloir tous supprimer leur compte TikTok, c'est pas encore le cas pour tous. Oui. François Legault qui a encore son compte TikTok, la Coalition Avenir Québec qui ne l'a plus, Gabriel Nadeau-Dubois qui l'a supprimé, mais Québec solidaire qui est encore là. Donc c'est pas
parfait.
C'est
un peu flou pour l'instant.
On va donner le bénéfice du doute que ça s'en vient parce que c'est vraiment une vague là, qui est partie. Les universités, les cégeps qui demandent aux employés aussi de supprimer TikTok. Honnêtement, puis on parlait, là, les États-Unis qui ont un projet de loi possible sur la table pour bannir TikTok tout simplement aux États-Unis. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens qui perdraient beaucoup d'argent, disons-le. puis c'est pas, le but n'est pas de dénigrer, là, c'est un métier, ça existe, les influenceurs, là, mais les influenceurs TikTok, surtout aux États-Unis, le programme de créateurs n'existe pas au Canada. Je pense que tu ne fais pas les revenus de la même manière si tu en fais. Au Canada, c'est différent. Là. Il y a un programme vraiment aux États-Unis pour ça. Il y a beaucoup de gens qui vivent de TikTok. Ça fait que c'est quand même une méchante grosse décision. Il y a beaucoup de compagnies qui font de la publicité avec énormément de succès sur cette plateforme-là. Mais avoir cette vague, ce raz-de-marée-là, c'est à se demander si on ne va pas envisager une solution similaire du côté du Canada aussi. Parce que là où, justement, les États-Unis réussissent à avancer de façon sur une décision aussi drastique, c'est que c'est un des rares enjeux qui rejoint autant la droite que la gauche.
C'est vrai que c'est assez rare qu'il y ait...
C'est rare,
un point où tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Quoi.
Les inquiétudes autour de la Chine, elles sont pas mal universelles.
Oui.
Aux États-Unis et au Canada. Le Parti conservateur du Canada qui est bien inquiet, évidemment, qui est inquiet d'ingérence possible dans les élections. Du côté du Parti libéral, bon, on a eu assez de prises de bec avec le gouvernement chinois pour savoir que c'est pas l'amour. Là. Il y a vraiment quelque chose de particulier qui se développe autour de ça. Et il y a quelque chose pendant qui me chicote à travers tout ça.
OK, c'est quoi?
Un brin d'hypocrisie. Mm-hmm. Un brin d'hypocrisie au niveau des compagnies, des universités, tout ça. Alors qu'on demande aux employés de ne plus avoir TikTok sur leurs appareils de travail, il y a beaucoup de compagnies qui se sont dit... En fait, là, je cite beaucoup de compagnies, là, c'est la phrase qui revient souvent, sont en analyse à savoir si leur compte TikTok de compagnie d'organisation, lui, va être supprimé. Ça, c'est pas aussi clair, apparemment. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que ça y bénéficie à ces compagnies-là. C'est pas mal plus facile de pénaliser des employés. Puis comprenez-moi bien, je suis en accord, là. Je comprends l'enjeu, surtout sur des instances publiques, comme les compagnies de transport, les universités, le gouvernement. Je comprends tout ça. Mais c'est quand même particulier de voir, ben, par exemple, la STM, la Société des Transports de Montréal, qui demande à tous ses employés de supprimer TikTok des téléphones d'emploi, mais qui garde son TikTok actif au niveau de la compagnie, puis dit, bon, on analyse, voir, là, peut-être que c'est peut-être pas si dangereux que ça, on va regarder avec des experts de sécurité. Mais ça s'applique pas au niveau des employés, ça, de regarder avec des experts de sécurité avant, de décider. Si le gouvernement juge que c'est assez dangereux, c'est peut-être assez dangereux pour vous aussi.
Oui, mais tu sens toute la tension entre l'aspect économique de TikTok, qui est quand même important, et puis... Oh bah pour les employés, c'est moins important tout de suite. Quoi.
C'est un peu ça. Regarde aussi au fédéral, là, le chef du NPD, Jagmeet Singh, qui a connu un boom sur TikTok là, de popularité. Il est de loin le politicien le plus suivi au Canada sur TikTok. Presque 1 million d'abonnés. C'est vraiment loin devant. Je peux pas assez mettre l'accent là-dessus. Pas surprenant qu'il y ait un peu plus d'hésitation, hein, soudainement, de son côté, à supprimer l'application, quand il se dit, ben, c'est pas mal un des outils les plus efficaces qu'il a pour faire campagne, pour rejoindre les jeunes qui font une bonne partie de son électorat.
Exactement. Et moi, c'est vrai que c'est une question que ça m'a un peu posée, tout le monde qui part de TikTok en ce moment, c'est... Les politiciens ont quand même passé beaucoup de temps pendant les dernières campagnes électorales à nous dire que TikTok, c'était le média des jeunes et qu'il fallait être sur TikTok pour toucher les jeunes. Et là, tout le monde s'en va d'un coup. Ouais. Et du coup, genre, qu'est-ce qui va se passer autour de ça? C'est quand même surprenant.
Parce que les jeunes vont pas abandonner la plateforme.
Bah non, clairement
c'est,
pas.
C'est pas Facebook qui va aller rechercher les jeunes, je vous l'annonce. Là. Facebook s'est rendu un système de message texte.
C'est ça.
Pour les jeunes, là, disons-le comme ça. Mais ça nous amène aussi à des situations où, par exemple, au conseil de ville de Québec, c'est pas autant un enjeu. Là. Il y a un seul conseiller qui a TikTok. C'est le maire, c'est Bruno Marchand. Et quand tout autour, les employés de la ville n'ont plus le droit d'avoir TikTok, mais le maire a un compte personnel. Et là, le chef de l'opposition, Claude Villeneuve, a dit, là, ça va faire, on peut supprimer ça sans hésiter, parce que le maire Marchand a dit qu'il était en réflexion. Du côté de Claude Villeneuve, dit, ben là, il me semble que si c'est assez clair pour le gouvernement provincial, puis c'est assez clair pour ci, puis c'est assez clair pour ça, ça devrait être assez clair pour vous. Et donc, cette espèce d'hypocrisie qui est quand même assez existante quand tu considères que les employés de la ville n'y ont pas droit, mais le maire, lui, est en réflexion. Pour lui, il faut y penser.
Ouais, il faut plus de temps, quoi.
C'est ça. Donc, un peu particulier comme situation. C'est vraiment, vraiment particulier. J'aurais jamais cru, honnêtement, que ça ferait autant boule de neige, tout ça, autour de TikTok. Mais c'est où ce qu'on est aujourd'hui à penser que l'application pourrait peut-être même être bannie des États-Unis. On va prendre une première pause musicale sur les ondes de Chiz 94.3. Au retour, il y a du nouveau dans le dossier de la LHJMQ.
Yeah! Yo, hey,
set, yo, set.
Yo, j'enlève les gros mots dans mon vocab. J'ai plus besoin de vous dire que vous êtes des tocaps. Nos moves sont transparents comme les acétates. Les photos ben direct, mon gars, no cap. Easy come, easy go, les gros stacks. L'inflation sur les épiceries, les gross stacks. L'argent t'as sorti, guichet, pis t'as belle life. Idéalement, gros, t'as dans caisse populaire. Woo! Je vois tellement classe à map. Même Google pense ajouter à la classe à map. Mets du pain puis tu passes à map. C'est du bien, v'là un peu t'en faisais rien que ça en dessous de la table. Oh! Fucking up shit comme des vandales. J'arrive en Belgique, cherche Vendôme. Dej life sur un painel. Plus curie chez nous qu'un Saint-Friend. Quand un keb réussit, on dit qu'il est trop whack. Quand un keb réussit pas, on dit qu'il est trop whack. Branchez-vous dans ma gang de toe cap. Sinon je vous envoie au métro Berry pour faire la wash. Bouge, bouge, hey fêlé. Attends pas jusqu'à demain, on a du chat fouetté. Bouge, bouge, fêlé. Attends pas jusqu'à demain, on a des choses à faire. J'ai une couple d'amis qui passent en paye aux danseuses. Yo, je te dis que c'est elle qu'il faut appeler les chanceuses. Les mains pull-up sur vous avec des chèques post datés. Ils veulent stack me, ça se passera pas cette année. Hey, pour moi, j'ai de l'or à mettre dans mon lit de fort. Faut que je continue d'apprendre, faut que je finisse mes devoirs. La permission de sortir jusqu'à 8 heures à soir. Appelle ton cause, appelle ta soeur, ton frère, ton bodyguard.
Tu connais, là? Hein? C'est Lionel.
Bon, OK, un trou Big Mac, là, c'est bon. Mais parler d'actualité avec Sarah Manzano, c'est encore meilleur.
Ben oui, souvent, c'est...
Whoop!
Qu'est-ce que c'était que ça?
La toune, mais il y a des tounes comme ça qui finissent, qui... mais qui finissent
oui,
pas.
C'est bizarre.
C'est particulier. Et en plus, ben, tu nous as mis Sarah Manzano.
Ben oui, je me suis trompée en plus. Oh, oh. Tu veux que je te mette ton Big Mac?
Oui, j'aimerais que tu me remettes mon Big Mac à moi.
Allez, hop là.
Faudrait peut-être que tu montes le jazz.
Ah oui, ça marchera mieux, en effet.
Mais parler d'actualité avec Félix-Antoine Audet, c'est encore meilleur.
Hey, ça n'a même pas fini encore.
Ça toujours pas fini.
C'est
hop
vraiment
là,
particulier,
bon,
ça.
On va couper ça.
OK, ben non, c'est, pas, c'est vraiment particulier, ça. Hey, c'est la plus longue que j'ai jamais vue.
Ben
j'en,
oui.
J'en ai vu des longues, mais pas aussi autant que ça. Bon, tout ça pour dire, midi 19, vous êtes toujours sur les ondes de Chiz 94.3 en compagnie de Félix-Antoine Audet et Azilis Pot de Serre. Et tu une chance que tu étais là parce que c'est sorti pas mal à 11h.
Oui.
Avant que je rentre ici en ondes pour la table ronde littéraire. On pourrait revoir voir le retour finalement de la commission parlementaire sur la LHJMQ.
Et oui, c'est ce qu'a annoncé Isabelle Charest, donc la ministre des Sports. Ce qui se passe, c'est que la semaine passée, on avait encore cette commission parlementaire qui était présente et Gilles Courteau a été interrogé. Donc Gilles Courteau, qui est le commissaire de la LHJMQ, donc il a parlé devant les parlementaires en expliquant que ça touchait, que les abus sexuels ne touchaient pas sa ligue, etc. Ce qui a ensuite été démenti. On a appris que c'était le cas de Stephen Quirk, l'un des joueurs qui, entre 95 et 98, a subi des abus sexuels en étant dans cette ligue-là. Donc bon, ça commençait déjà pas très
c'est
bien
ça.
Pour lui.
Déjà cette semaine, ça compliquait vite l'enjeu.
C'est ça. Et donc là, au-dessus de ça, Gilles Courtois a essayé de se justifier ce matin en disant qu'il n'avait pas eu toutes les informations avant d'arriver devant la commission parlementaire. Alors ça paraît quand même dur à écouter. Hein.
Qu'il n'avait même pas lu le seul enjeu concernant sa ligue dans la commission.
C'est ça, il y avait un joueur de toucher, un témoignage à lire. Et il l'a pas lu au complet.
Oui.
C'est dur à croire ou en tout cas à comprendre ce qui a pu se passer pour qu'il lise pas en entier ce témoignage.
Comment dire ça de façon délicate, posée, mon œil.
C'est ça.
C'est, aïe. Pour quel imbécile est-ce qu'il nous prend? T'sais? C'est vraiment, vraiment ridicule.
Donc, bon, c'est très surprenant. On a beaucoup de mal à le croire, on va pas se mentir. Même moi, je m'attendais pas à être aussi mobilisée par cette histoire, honnêtement. Ça fait 2 mois que je suis là, le hockey, j'y connaissais pas grand-chose avant d'arriver. Mais là, je trouve que c'est gros, quand même.
C'est ridicule.
La gestion qui est faite autour de cette crise et de cette tempête médiatique m'impressionne, parce que ils ont quand même embauché une agence de relations publiques qui s'appelle Tact Conseil. Bon, là, on manque de tout sauf de tact. Parce que bon, quand même... Réussir à arriver devant les médias en disant pardon, j'avais pas tout lu, c'est quand même fort.
C'est j'espère qu'ils chargent pas trop dans ce dossier-là. Tact,
ben ouais,
parce
ça a l'air compliqué en tout cas de leur côté. Et donc bon, ce qui se passe suite à ça, c'est qu'il y a cette volonté de faire revenir la commission parlementaire. On doit encore avoir un vote des députés pour acter le fait qu'elle revienne. Mais bon, vu que la ministre des Sports pousse, que la CAQ est d'accord avec elle, il y a beaucoup de chances pour que ça arrive dans les jours à venir. Ce qui se passe c'est qu'il y a de plus en plus de responsables politiques qui demandent que, tout simplement, Gilles Courtois démissionne de ses fonctions.
Ouais.
Une question qui, pour l'instant, est loin d'être résolue parce que Gilles Courtois ne veut pas démissionner, clairement.
Rappelons quand même, Gilles Courtois est sur il est là pour encore un an et demi environ.
C'est ça. Il est censé partir en 2024. Ouais. Et... ce qu'il explique, c'est qu'il veut assurer à tout prix une succession de la meilleure des manières possibles, ce qui paraît assez surprenant dans le contexte actuel.
C'est Vincent Marissal, je pense, de Québec solidaire, qui disait justement « me semble que c'est pas lui que je veux pour faire la transition ».
C'est ça, exactement. Vincent Marissal fait partie de l'équipe de Québec solidaire qui a demandé à ce qu'il parte, clairement. Donc Gilles Courtois qui veut assurer une bonne transition, mais bon, ça pose beaucoup de questions de légitimité. Et un peu de mauvaise foi aussi, notamment envers les victimes. Moi, c'est ce qui me touche le plus là-dedans, c'est quand même ce côté où on entend parler des victimes, etc. Mais on continue de dire à moitié des choses, etc. Et pas être honnête avec elles. Et je me dis, mais pour les personnes qui ont vécu ça, t'écoutes les médias, qu'est-ce que tu penses quoi, à ce moment-là?
C'est Martin Leclerc qui avait sorti l'histoire à la base,
ouais.
Qui est revenu la semaine d'après, après les commentaires originaux de Gilles Courtois, à dire que ça concernait pas trop la Ligue. C'est lui qui a rappelé le témoignage du joueur de la LHGMQ. C'est aussi lui qui a précisé que depuis la sortie de sa chronique originale, il reçoit des témoignages à la pelletée de joueurs de la LHGMQ, d'anciens joueurs de la LHGMQ qui se demandent comment participer à une possible... parce que c'est plus une action collective, là, mais il y a possibilité de le faire de façon individuelle. Il y a une porte qui est ouverte à ça. Donc, comment y participer et est-ce qu'ils sont touchés? Puis simplement, des fois, juste de témoigner. Donc, il y a clairement un enjeu aussi autour de la LHGMQ. Et lui-même, en commission, lors de la demande d'action collective, il avait témoigné. Et il a dit que ça faisait 45 ans qu'il était au courant de problèmes et d'enjeux autour de la Ligue.
Oui, 45 ans. Puis ensuite, il a dit que ça faisait 20 ans que c'était plus calme. Bon, là, avec tous les témoignages de joueurs qu'on a, on sait clairement que ça s'est pas calmé et que c'est, dans les dernières années, c'était encore présent. Donc, beaucoup de questions autour d'un potentiel départ de Gilles Courtois qui pourrait être accéléré peut-être par la commission parlementaire. On ne sait pas encore ce qui va se passer. En tout cas, c'est une affaire qu'on va clairement continuer de suivre. Oui. Et bon, on verra
bien
ce qui
heureux,
se
en
passe.
Tout cas, qu'il y ait eu une ouverture du côté d'Isabelle Charest de rouvrir cette commission, parce que ça faisait plusieurs jours qu'elle était demandée. On a l'impression que c'était non, merci, c'est réglé. Là, on n'abandonnera pas le dossier, on va y retourner à la charge là, du côté de la coalition Avenir Québec et des autres partis d'opposition qui y seront présents.
Oui, c'est ça. Ce qui était dit pour justifier l'arrêt pour l'instant, c'était l'idée que... on savait ce qui s'était passé maintenant et qu'il y avait des actions qui allaient être mises en place comme le code du vestiaire, etc. Donc que ça allait mieux. Mais bon, si on n'a pas la moitié des informations, c'est forcément c'est compliqué d'avancer.
Wow, c'est absolument ridicule. On va le dossier qui est loin d'être terminé. On continue de suivre ça de près. On va prendre une pause hâtive, je vous dirais, pour cette arrivée à la demi-heure, parce que je ne veux pas être en retard pour notre invité. Jean-Philippe, de la fameuse cuisine de Jean-Philippe, chef vegan, sera avec nous à 12h30. Restez des nôtres.
Quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Pour entendre la dernière chanson des Shirley, savoir ce qu'Olivier Arthaud fait en théâtre ces temps-ci et être au courant de tous les événements organisés par le collectif Ramen, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. T'as aucune idée de qui je viens de te parler? Raison de plus pour ouvrir ta radio de 16h à 17h30 tous les jours de semaine.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Aux très chers auditeurs du Chiz 94.3, savez-vous que la musique est la seule drogue qui ne peut pas vous tuer? Alors venez goûter à la pilule chilule. C'est de la synth-pop, de la dream-pop, de l'indie et même des pépites méconnues de la France et de l'outre-Atlantique. Chilule pilule, c'est une cure bien méritée. Tous les mercredis, de 22h à 23h30, sur les ondes du Chiz 94.3 FM.
Imaginez-vous au comptoir d'un bar caché dans une ruelle. Les murs sont en pierre, les meubles en vieux chêne, et il y a un orchestre jazz qui joue au fond de la pièce. C'est dans cette ambiance que l'on vous accueille un lundi sur deux à 11h sur les ondes de Chiz 94.3 pour entendre les auteurs et les autrices de Québec. Le cabaret du crachoir, prolongement de la revue Le crachoir de Flaubert, offre à vos oreilles de véritables soirées littéraires. Les lundis matins.
Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Cheese a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'Allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Information, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'Allongée, seulement sur les ondes de Cheese 94.3.
Pour ou contre la coriandre? Aux affamés, on débat de choses tout aussi déchirantes et un brin insignifiantes.
De retour sur les ondes de Cheese, il est présentement 12h30 et tel que promis, Jean-Philippe Cyr, le chef vegan de la cuisine de Jean-Philippe, est avec nous. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour, bonjour.
Là, faut que je me confie avant de commencer l'entrevue. J'ai un peu de jalousie, fait qu'il faut au moins que je la mette sur la table, là, parce que ma blonde, qui apparemment ne m'écoute presque jamais, m'a dit « Ah ben là, c'est Jean-Philippe aujourd'hui, faut que je t'écoute. » Donc, faut au moins que je mette ça sur la table. Je
grâce c'est toujours à vous, comme ça.
Ben oui.
Je comprends pas. Toutes les fois qu'il y a un gars qui vient me voir, il me dit toujours
« Là,
ma blonde a fait tes recettes, puis on peut te prendre une photo, c'est pour ma blonde, mais je sais pas qu'est-ce que je vais faire au gars, mais c'est peut-être que je vais faire avec le tofu, j'imagine.
» Ça va être ça qui arrive. Hey, c'est un plaisir de pouvoir se parler aujourd'hui. Vous venez en fin de semaine dans notre belle ville de Québec pour participer à l'exposition Manger Santé. Et vous venez faire quelque chose d'assez particulier, je trouve ça quand même sympathique, surtout pour une expo Manger Santé. Un concours de poutine vegan contre la chef du Don vegan de Québec. Est-ce que c'est pas un peu en contradiction manger santé et faire de la poutine?
Ben, vegan, ça veut pas toujours dire santé. Maintenant que moi, je mange santé peut-être 88% du temps, mais quand je veux manger de la cochonnerie, je mange de la cochonnerie vegan. C'est que la poutine, écoute, la poutine vegan avec mon fromage, moi j'ai sorti un fromage mozzarella dans tous les IGA récemment, ça fait que je vais avoir mon fameux fromage mozzarella, puis Anne-Marie, elle, son fromage, ça va être du tofu mariné.
Quand même.
Je dirais pas tous les secrets de sa poutine, ça va être une poutine assez extraordinaire, son affaire. Mais moi, des concours comme ça, j'en ai fait au Festival Vegan, j'en ai fait même en France. J'ai fait un concours avec un chef vegan français, puis c'était un concours de bœuf bourguignon en vegan, puis j'ai gagné, écoute, en France, j'ai gagné contre un chef français. Une recette française, ça fait, je dois dire, qu'il était pas mal démoralisé, le gars.
Là, fais juste attention, je veux juste t'avertir, là, parce qu'on a une française à la mise en onde, j'ai peur qu'elle ferme ton micro, Jean-Philippe.
Ça va, non, quand même pas.
Faut pas trop s'y attaquer. Non, vraiment, vraiment passionnant. Je serai d'ailleurs de l'assistance. Est-ce qu'on va pouvoir goûter à ces poutines-là, ou c'est...
Ben, on va choisir 3 juges dans l'assistance, puis tu me feras un signe, on va se faire un signe secret, comme
oui,
ça je te choisirai.
Parfait, on va s'arranger quelque chose, c'est super. Je voulais parler un peu là, de d'où c'est parti tout ça pour toi, le véganisme, parce que t'es pas mal rendu la figure, là, sans vouloir t'enfler la tête, là, t'es pas mal rendu la figure emblématique du véganisme au Québec. Est-ce que ça vient de toujours? À quel moment tu t'as transitionné? Parce que j'imagine que t'es pas né puis on t'a dit ça y est, tu ne mangeras que du tofu toute ta vie, là.
Non, au contraire, moi j'ai mangé du tofu quand j'étais petit, mais tu sais, ma mère a cuisiné beaucoup, ça fait que elle essayait de faire du tofu, comme tous nos parents à un moment donné, ils ont essayé de faire du tofu, ils ont mis de la sauce soya, puis d'attitude, ça fait qu'on on a pas trippé sur le tofu, c'était pas très très élaboré les recettes dans ce temps-là. Puis ensuite, je suis devenu chef cuisinier dans les restaurants, c'est moi qui faisais cuire la viande.
Okay.
Fait que j'étais spécialiste du filet mignon, du steak, tout ce que tu voudras. J'ai même travaillé au restaurant du Capitole à Québec où je faisais cuire de la viande pour des célébrités, toi chose. Puis ensuite, je commençais à m'intéresser quand même au véganisme. Tu sais, j'avais beaucoup de choses en commun avec les véganes. Je suis bien attenté. J'aimais les animaux. J'avais pas d'amis ben. Fait que j'avais beaucoup de choses en commun avec eux. Puis un soir, on m'a demandé de faire cuire de l'agneau pour 400 personnes dans un banquet. Tu sais, c'est un banquet en campagne un petit peu. C'est que c'était dans un salon mortuaire. Fait que j'ai comme fait le lien entre l'animal et l'assiette, puis j'ai dit, bon, mais là, je vais devenir vegan. Fait que, ensuite, c'est ma blonde qui m'a donné l'idée aussi de faire des vidéos à l'époque pour mettre sur Facebook. Fait que j'ai commencé à faire des recettes. Je me rappelle, mon premier vidéo, c'était une soupe que j'avais baptisée « Le meilleur potage au monde ». On voit que j'avais tout de suite le goût, j'avais quand même le marketing à l'époque. Le lendemain, je me rappelle, ce potage-là, cette vidéo-là avait été regardée par 1000 fois, dont probablement 400 fois par ma mère. Mais c'est pas grave, j'étais devenu un influenceur. J'ai lancé mon brand comme ça, puis j'ai appris sur le tas comment faire des vidéos. Puis j'ai... Tu sais, mon background de chef, c'est sûr que ça m'aide.
Mais oui.
Pour faire des recettes. Souvent, il y a des blogueurs qui font des recettes, mais c'est pas des spécialistes en recettes. Moi, j'ai étudié là-dedans, ça fait que je suis capable de faire des recettes. Puis j'utilise beaucoup les anciennes recettes que j'avais dans les restaurants, les sauces, les choses comme ça. Puis je mets du tofu au lieu de mettre du foie de veau. Fait que c'est pour ça que ça rejoint quand même, ça ratisse assez large, ça rejoint le grand public, parce que c'est pas typiquement ce qu'on s'attend de la cuisine végane.
Puis tu l'as mentionné, là, le fait que, bon, ça part de ton expérience de chef, mais là, t'es rendu, comme tu l'as dit, là, influenceur, c'est le bon mot, là. T'es rendu la personnalité publique qui est associée au véganisme. Comment tu vis ça d'être reconnu, d'être la personne qu'on va aborder dans la rue, de dire, excuse-moi, je vais prendre une photo? C'est quand même un changement de la vie de chef, là?
Ben, les gens sont toujours gentils quand ils me reconnaissent. Tu sais, c'est rare que quelqu'un va venir te taper sur l'épaule, t'envoyer promener, là.
Oui.
Fait que souvent les gens ils me disent quelles sont leurs recettes préférées. Souvent c'est à part de leurs enfants. Il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir de mon âge puis ils disent, ah, ma fille est arrivée il y a 2 ans puis elle voulait plus manger de viande, fait que là j'ai acheté ton livre, puis là moi aussi je suis rendu que je mange plus de viande. Ça part beaucoup de ces générationnels de véganisme, hein.
Oui.
Sauf que moi, mes parents, ils ont trop peur pour eux autres, tu sais, je pourrais pas leur enlever leur cuisse de poulet. Mais plus que les gens sont jeunes, plus ils sont scolarisés aussi, plus, tu regardes autour des universités, il y a beaucoup de restaurants végans, j'ai voyagé beaucoup, puis je suis allé même à Harvard, puis il y a plein de restaurants végans autour des universités. Mais quand les gens sont conscientisés, ils changent leur alimentation. Mais moi, j'adore rencontrer le monde. C'est sûr que ma vie a changé complètement. J'étais anonyme, puis maintenant, tu sais, je suis pas... pas voisine non plus. Je suis capable quand même d'aller faire mon épicerie, mais c'est le fun. T'sais.
Mais il y a ta face sur des produits à l'épicerie aussi.
Ben c'est ça, ça. Puis même moi, je fais le tour quand je vois ma face sur des produits à l'épicerie. Je suis comme quand tu vois une photo de toi sur ton téléphone, tu fais, ouais, c'est que, ouais, non. Fait que ça fait toujours drôle, même si ça fait 3-4 ans que j'ai des produits et que j'en sors toujours des nouveaux, là. Mais oui, c'est le fun.
Ouais. Tu parles justement, là, si tu le dis un peu en blague, là, c'est dur d'avoir des amis quand t'es vegan. C'est cette espèce de façon-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu rencontres régulièrement, de devoir amener tes propres plats, de devoir faire différemment? Comment tu vis cette réalité-là?
Ben moi, j'essaie de réunir les vegans. Depuis 2 ans, j'ai dit, bon, tu sais, je dis, on va aller faire du camping. Avec qui je vais aller faire du camping? J'ai pas d'amis, je suis vegan. Fait que j'ai fait un appel à tous. Est-ce qu'il y a des vegans qui veulent aller camper? Je pensais qu'on allait être une dizaine, tu sais, des gens de Québec, des gens de Montréal. En tout cas, on réunit ça dans le parc de la Mauricie. Puis on a été 80 finalement.
Bon.
80 vegans dans les bois. Ça fait que ça prouve que les vegans, ils ont besoin de sociabiliser. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont isolés par leur mode d'alimentation.
Surtout
que t'es en marge un petit peu, tu t'isoles. Tu sais, quand t'es à Montréal, quand t'es à Québec, c'est pas si pire, mais j'en connais des gens qui sont au Saguenay. Tu sais, ils traînent leur lunch, c'est certain, quand ils vont souper, là.
Oui. Et là, je ne suis surtout pas en train de parler de celui qui vous interpelle, là. C'est vraiment pas moi, personnellement, qui pose ça. Est-ce que c'est possible d'être vegan et de ne pas aimer cuisiner?
Ben, les gens, ils cuisinent plus beaucoup, hein.
Oui.
C'est pour ça que je sors des produits prêts à manger. C'est pour ça que je sors des 7 ans foulés. C'est pour ça que je sors des fromages. C'est que les gens, ils aiment ça cuisiner, mais ils aiment pas ça passer 2 heures dans la cuisine quand ils reviennent de travailler.
Mm-hmm.
Fait qu'il faut simplifier la vie des gens avec des produits. C'est ça que j'essaie d'exploiter aussi dans mes livres de recettes, de dire aux gens, regarde, le tofu, c'est pas compliqué. Tu mets ça avec comme mon tofu de sauce à l'arachide, tu mets du beurre de peanut, du tofu, un petit peu de bouillon de légumes, un petit peu de sriracha, un petit peu de sirop d'érable, puis t'as une recette. Les gens m'écrivent, j'ai fait 2 fois par semaine sur cette recette-là depuis 5 ans. Il y a moyen de faire ça simple aussi. Le tofu, c'est déjà cuit. Fait que t'as pas besoin de mettre ça au four pendant 45 minutes. Mais ça peut être autant qu'il y a de la cuisine non végane qui est compliquée, autant qu'il y a de la cuisine végane, ça peut être compliqué comme ça peut être simple aussi.
Pour terminer peut-être sur cette entrevue, le véganisme, ça en effraie beaucoup. Il y a beaucoup de gens, bon, qui ont jamais touché à ça de près ou de loin, du tofu. C'est le démon, ça fait peur. Comment est-ce qu'on peut convaincre quelqu'un, au moins d'y essayer, au moins d'y goûter à ce style de cuisine-là comme chef végan?
Mais faut prêcher par la fourchette, comme je dis souvent. Tu sais, faut que ce soit bon. Si c'est pas mangeable, T'as bien beau me dire que c'est bon pour la santé, que c'est bon pour l'environnement, que c'est bon pour les animaux, j'en mangerai pas, là. Donc, quand tu trouves ça familier, pour que ce soit, moi, tu sais, ma sauce à spaghetti avec du tofu brouillé, du tofu haché dedans au robot, si tu goûtes à ça, puis tu goûtes à une sauce à la viande avec la même recette, tu verras pas une grosse différence, là. Si la recette est bonne, elle est bonne avec du tofu ou elle est bonne avec la viande, un pâté chinois, un veggie burger, tu sais, il faut que ce soit familier pour que les gens y embarquent. Faut pas que ce soit de la cuisine qui soit totalement farfelue ou qui vient de... Le monde, il pense toujours au tofu avec un curry indien ou quelque chose de même. C'est pas tout le monde qui aime la nourriture indienne, mais moi, j'ai rarement vu quelqu'un qui aimait pas le pâté chinois, tu sais.
Ben là, tu vois, tu me lances sur une dernière piste. Je sais que j'ai dit dernière. Là, c'est vrai, c'est la dernière. Là, je te retiendrai pas plus longtemps. Mais bon, ça fait juste 10 minutes. On rit. T'es connu aussi beaucoup pour ton humour sur les réseaux sociaux, la personnalité que t'amènes à ça. Penses-tu que ça a un gros impact sur la popularité que t'as amenée au véganisme, la popularité, comment t'as simplifié ça pour beaucoup de gens, l'humour que tu amènes à tout ça?
Ben moi, ça a commencé avec l'humour, autant qu'avec les recettes. Je te dirais, c'est 50-50. Puis il y a encore des gens qui me disent, moi, tes recettes, je les fais pas bien bien, mais je te trouve drôle, ça fait que je l'écoute. Puis là, tranquillement, j'ai commencé à cuisiner parce que je trouvais que c'était drôle. C'est que faut... L'humour, là, au Québec, là, c'est pas pour rien qu'il y a autant d'humoristes. Hein, les gens viennent rire. Moi, j'aime rire. Puis avant d'être chef, j'étais quand même rigolo. D'avoir l'air de quelqu'un de sérieux, ça marchera pas. Là. Ouais. Je pratique beaucoup l'autodérision. Puis ça, les véganes, ils pratiquent pas souvent l'autodérision. Mais moi, je me moque du tofu, je me moque du fait qu'on n'a pas d'amis, je me moque qu'on manque de protéines, je me moque de tout ça. Mais je peux le faire parce que moi-même, je suis végane, tu comprends?
Effectivement. Ben Jean-Philippe, de la cuisine de Jean-Philippe, tu es à l'expo Manger Santé en fin de semaine. À quelle heure on peut te retrouver?
À 12h45 sur la scène culinaire samedi.
Ben manquez pas ça. Merci beaucoup du temps que tu nous as accordé aujourd'hui.
Merci à vous.
Yes, merci, bonne journée. C'était Jean-Philippe Cyr de la cuisine de Jean-Philippe. Vraiment, le même genre de personnalité qu'on retrouve sous ses vidéos.
C'est un
homme très sympathique, bien divertissant. Je vous invite bien gros. J'y serai de l'assistance, ça c'est certain. Là, ma blonde qui a bien hâte d'y être pour voir ce combat de Poutine. On va essayer de trouver un signe secret là, à Jean-Philippe. Comment je peux mimer de la radio? On va trouver un moyen de mimer. C'est moi, là, l'intervieweur. C'est moi.
Tu fais un micro. Ou un truc comme ça.
Ouais, mais le signe de micro peut
ouais,
montrer autre chose.
Il est pas toujours
chose.
Très clair, ça.
Soyons clairs. OK, on va reprendre nos esprits. Petite pause musicale sur les ondes de Chiz 94.3. On revient dans quelques minutes.
I was watching Groundhog Day. On a entendu dire que le dessert préféré de Félix-Antoine Audet, c'est le Oreo. C'est drabe, hein? C'est plate, c'est tout.
Midi 47 sur les ondes de Chiz. Je suis accompagné d'Azélise Pau de Serre. Et Azélise, on a du nouveau dans cette fameuse grève des professeurs qui ne semble pas près de se terminer.
Non, malheureusement, on va encore avoir des cours d'annulés pour les semaines à venir, visiblement. C'est quasi sûr, pas encore totalement. Les profs sont en train de voter juste en ce moment, pendant qu'on discute. C'est l'Assemblée générale du syndicat des professeurs de l'Université Laval qui est en cours. Suite aux deux semaines de négociations qu'il y a pu avoir là, pendant deux semaines, où on avait moins de cours. Ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours des blocages autour des questions de gouvernance collégiale, de revalorisation salariale, c'est dur à dire revalorisation, et de transparence des budgets. Donc c'est quand même des gros sujets. Ce qui se passe, c'est que 85% des négociations sont faites, mais il reste un bon 15% qui est difficile à faire passer du côté des syndicats, et la volonté de compromis semble pas trop être là pour l'instant, d'un côté ou de l'autre, hein, ouais, on va pas se mentir là-dessus.
Ce qu'on entendait beaucoup, là, c'est ça, l'Université Laval qui donne un message hyper positif depuis environ une semaine, là, de dire « Ah, mais tu sais, presque tout est réglé, là. Vous allez voir, là, c'est presque terminé, on est bien heureux de tout ça ». Et là, on s'attaque un peu au message de l'Université Laval du côté du SPIL. Là, minute papillon, là, on n'a pas terminé. Là.
Ben, c'est ça, parce que depuis lundi, on a quand même le même discours du côté de l'université et le SPIL qui reste là à dire bah oui, mais c'est toujours pas réglé les 15%, ouais. Quoi. Et ça fait une semaine qu'ils négocient là. Donc, ce qui se passe, c'est que les professeurs vont voter là maintenant. Dans l'après-midi, vers 16h au plus tard, on devrait savoir si la grève est prolongée. Donc, on rentrerait dans une grève illimitée, jusqu'à que les négociations et qu'une solution soit trouvée. Ce qui se passe, c'est qu'une fois que les points contentieux qui restent là, qui sont assez compliqués, seront réglés, il y aura une négociation pour savoir comment est-ce qu'on va reprendre les cours. Qui peut aussi durer un petit bout de temps, quand même. Donc, ouais. Pour l'instant, on a très peu d'informations sur comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer après la semaine de lecture. Les professeurs sont concentrés sur l'idée de négocier pendant cette semaine-là pour voir ensuite ce qui se passera au retour.
Ça va quand même aider, là, la semaine de lecture. Là, ça va permettre un bon blitz de négociation. Il n'y a pas d'enjeu avec les étudiants, il n'y a pas d'enjeu autre
que négocier.
Ça
fait une pause concentrée là-dessus, quoi. Donc, on va continuer de suivre ce qui se passe dans les semaines à venir, mais bon, c'est dur d'être dans le flou. Là, ça commence à... Enfin, si ça dure encore longtemps, on ne sait pas comment on va faire pour avoir notre semestre, mais...
C'est vraiment assez... Tu sais, puis je pense à quelqu'un comme toi, là, une situation particulière où tu viens pour un semestre seulement, puis un stage après, oui, mais un seul semestre scolaire, puis t'as deux de tes cours qui pourraient...
Qui sont pas là. Bah, ce qui se passe pour les étudiants... internationaux comme moi, c'est qu'en effet, on n'est pas sûr que notre semestre à l'étranger va être validé ou pas.
Ouais.
Ce qui est quand même assez compliqué, mais je pense qu'on n'est pas les plus à plaindre, honnêtement.
Non.
Et je pense que les étudiants ici qui payent pour leurs études... Enfin, moi, je paye en France pour le semestre que je fais là.
OK.
Donc, je paye beaucoup moins que les étudiants qui sont ici.
Ah oui? On paye pas, pourtant...
Je paye pour mes frais de scolarité français qui sont ridicule le truc, parce que c'est la faculté, donc c'est public, ça coûte très peu.
Est-ce que je peux me permettre de te demander le montant?
C'est 200€ par année.
Oh!
Ce qui est rien du tout.
Oh!
Donc, je pense pas qu'on soit les plus à plaindre, honnêtement.
Okay, non,
parce que j'ai pas payé pour un semestre qui me coûte cher à travailler un travail étudiant à côté.
Il y a des étudiants étrangers qui doivent payer le frais total là,
d'une session. Et là, ça coûte beaucoup plus cher.
On parle dans les 30 000 là, pour un étudiant étranger qui est pas comme dans ta situation. Mais pour un étudiant ici, c'est 1 600 par session environ. Là.
Oui, mais ce qui reste quand même un investissement, et si c'est pour devoir refaire le semestre juste après, c'est quand même compliqué.
Oh, OK, oui, effectivement. Tu vois, tu viens de m'en apprendre une bonne. Mais non, c'est quand même intriguant, cette espèce de dichotomie dans le discours de l'université et du SPIL. Le SPIL qui est dans un discours très, ben là, ça avance pas, on risque d'aller en grève générale illimitée, je vois pas aussi qu'il parle du règlement, ça va bien, ça va pas si bien que ça sur les règlements importants. Puis t'as l'Université Laval, ah, oh, mais tout va très bien. C'est ça. Et il y a un aspect qui je trouvais étrange dans la communication de l'Université Laval. Mm-hmm. Je me disais, c'est peut-être juste moi. Mais apparemment, non. Le SPIL aussi, il prend quelques problèmes. C'est dans la mention continue du salaire des enseignants.
Oui.
Dans les communications de l'Université Laval, là, qu'on reçoit comme journaliste régulièrement, c'est toujours en train de mentionner le salaire moyen des enseignants, combien de pourcentages d'augmentation ils ont eu depuis tant d'années, puis le salaire. Un peu pour mettre dans l'embarras, je pense. C'est une stratégie de communication. Ça sonne comme ça, du moins, là. Mettre un certain embarras sur le dire, ben là, ils demandent 20% d'augmentation de salaire. Regardez combien qu'ils font.
Oui, c'est exactement ça. Ils donnent le montant exact qu'ils ont pour l'instant, enfin, que les profs reçoivent pour l'instant, mais sans mettre en relation avec les autres universités. Et c'est ce qui bloque au niveau du SPUL. On avait Madeleine Pastinelli qui était en entrevue mardi ici. Ouais. Et qui nous disait, mais en fait, on est ici dans la sixième plus meilleure fac canadienne.
Ouais.
Mais par contre, dans les salaires des profs, on n'est même pas dans le classement du top 15 tellement c'est bas.
Et les 15 universités de recherche canadiennes, pour préciser, là, puis le salaire des enseignants à ce moment-là est vraiment, vraiment plus bas que ce qu'on retrouve dans toutes les autres universités, malgré une qualité de recherche qui est dans les meilleures au Canada. C'est quand même étrange. Mais on met l'accent sur le fait, regardez, on ne fera pas de cachette, là. Un professeur d'université titulaire, c'est bien payé.
Oui.
C'est
ça
bien
va.
Payé, là. C'est dans les six chiffres. Début six chiffres, mais c'est dans les six chiffres. Mm. Et c'est sûr que la stratégie de communication, elle peut être efficace, là. Je peux facilement voir quelqu'un et dire, ben là, voyons, cette
ça
personne-là
va, quoi, c'est, oui.
fait le double de mon salaire puis il demande 20% d'augmentation. Mais c'est toujours comparatif, là.
Oui, mais il faut toujours le mettre en relation avec comment c'est dans le reste du pays et dans le reste des universités, et surtout dans ce cas-ci, où c'est très simple de jeter la balle au professeur en disant « bon, ça va, vous n'êtes pas tant que ça à plaindre ». Mais
ben oui.
Il y a quand même des blocages qui sont là depuis 2008 et qui avancent pas très vite. Toi,
si quelqu'un fait 50 000 par année puis dit « il doit avoir une augmentation de salaire », ça peut sembler bien. Si je vous dis qu'il travaille au McDo puis il fait 50 000 par année, ben là, vous dites « bon, là, je pense que t'es pas mal en haut de la moyenne ».
Oui.
Tu vous comprenez un peu l'enjeu. C'est ça, là, c'est le contraire. On est au-dessus de la moyenne, mais la stratégie de communication qui, honnêtement, je la comprends du côté de l'Université Laval, là, c'est le genre de stratégie qui peut être efficace, mais c'est peut-être un peu, comment dire, en dessous de la ceinture.
Ouais,
c'est assez facile, comme tu dis, à ce niveau-là.
Et puis, oui, ça peut être une bonne stratégie, mais bon, le SPUL, il répond quand même assez facilement et assez rapidement, fait que je sais pas si ça marche si bien que ça.
Ouais, mais faut toujours, dans l'image publique, là,
ouais.
C'est toujours l'image qui marque. C'est pas nécessairement le meilleur argument, ça c'est bien dommage, mais c'est la réalité.
Oui,
là.
Oui, c'est genre le chiffre qui va marquer. Bon,
le chiffre qui va marquer
quoi.
Les gens, c'est, tu sais, les gens retiendront pas, ils iront pas rechercher c'est quoi le salaire moyen des universités de recherche au Canada, puis voir pourquoi on est 15e, puis pourquoi. Mm. Ce qu'ils vont retenir, c'est les enseignants vont 130 000, puis ils veulent 20% d'augmentation de salaire, ben voyons donc.
C'est ça.
C'est ça qui retient, puis c'est là l'image forte qui a été placée. Comprenez-moi bien, là, je dis pas, je suis pas en train de dire que c'est bien, c'est pas bien, c'est pas ça. C'est juste d'un point de vue purement relations publiques. Pas mal l'Université Laval qui gagne au change là-dedans. Là. Mm. Je termine rapidement ce segment d'émission vous parlant de résidents, d'une résidence privée pour aînés de RPA. Plusieurs centaines de locataires qui vont devoir déménager, bon, des personnes qui ont souvent besoin de services, d'aide, de déménagement, de sécurité, de nourriture. Donc, des gens qui vivent encore seuls, mais avec de l'aide. C'est un besoin qui est quand même assez important. Mais de plus en plus de RPA qui ferment. C'est là l'exemple dans le Journal de Québec de la Villa Sainte-Foy, qui est sorti hier après-midi, qui va fermer en septembre 2023. Beaucoup de détresse qu'on lit du côté des habitants. Et ce qui me chicote particulièrement là-dedans, parce qu'à Montréal, quelque chose a été fait là-dessus, on a changé les normes de zonage autour de RPA pour qu'on ne puisse pas les vendre et que ça devienne autre chose, des logements locatifs, pas qu'on n'y en aurait pas de besoin du côté de Québec, là, mais reste que c'est un besoin particulier aussi, les RPA. Et on ne semble pas prêt à faire ça du côté de Québec. Et ça amène donc les gens à vendre ces bâtiments-là parce que tout récemment, il y a eu des demandes. Depuis la tragédie de l'île Verte dans laquelle il y avait 32 personnes qui avaient perdu la vie en 2014, bien, il y a beaucoup de normes qui se sont rajoutées, comme avoir des gicleurs un peu partout, ce qui me semble assez de base, mais oui. Apparemment, c'est trop coûteux de s'assurer que les gens brûleront pas dans un incendie. Donc, tu croirais que c'était déjà là, que c'était déjà présent, mais apparemment, là, d'avoir ajouté ça, il a même fallu que Québec repousse l'échéancier à décembre 2024 parce qu'on dit on n'y arrive pas, on peut pas faire ça. C'est un peu troublant, c'est un peu frustrant de voir ça. Et là, on préfère, ben, on va vendre puis on va laisser ça devenir des logements locatifs. C'est, me semble, le genre de dossier où l'intervention de la ville est nécessaire parce que ça prend ce genre de
d'intervention pour faire en sorte de pas abandonner ses aînés, entre guillemets, parce que là, ils se retrouvent quand même sans solution. Bon, on va les aider à retrouver un logement, mais quand même, ça reste...
On les envoie où, tu sais?
Où est-ce qu'ils vont partir? Il n'y a pas 70 espaces. Ça pourrait arriver pour d'autres endroits de la ville aussi. C'est ça qui est particulièrement...
Exactement. S'il y en a d'autres RPA dont l'enjeu est présent, puis on le mentionne, là, mais c'est des gens, on en parle depuis tellement longtemps, que la solution à long terme pour les aînés, c'est pas l'hôpital, c'est pas les CHSLD, c'est les soins à domicile. RPA, c'est pas mal une belle solution équilibrée de gens qui ont besoin d'un petit peu d'aide, mais qui peuvent encore vivre seuls. Mais là, ça devient de plus en plus complexe. Les CHSLD sont remplis, il n'y a pas d'aide non plus partout. Si on n'aide pas les RPA à survivre, là, si c'est vraiment si complexe économiquement que ça, aidons-les. Sinon, si c'est simplement une question de c'est pas mal plus payant monétairement les logements locatifs, ce qui est probablement le cas, parce que t'as pas de dépenses supplémentaires en plus des loyers, t'as simplement juste à laisser les gens vivre, puis c'est tout, ben, faut mettre des normes de zonage pour s'assurer que les gens qui vont prendre possession de ces bâtiments-là, ce soient des gens qui gardent leur vocation très importante à ces résidences privées pour aînés, parce que c'est ce qu'on a besoin présentement, surtout avec une population qui est tellement vieillissante au Québec, ça va être de plus en plus d'actualité. On va prendre une pause publicitaire et musicale sur les ondes de Chiz 94.3. On se retrouve dans quelques minutes.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Chiz a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'Allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Informations, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'Allongée, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
C'est le temps de vous inscrire à Force Avenir. Vous êtes engagé dans votre milieu? Participez à un projet qui a des retombées concrètes? Vous êtes un candidat idéal pour Force Avenir qui reconnaît l'engagement d'étudiants comme vous. Au total, une somme de 114 000 $ sera remise sous forme de bourse pour récompenser les lauréats. Pour plus de détails, rendez-vous à inscription.forceavenir.qc.ca ou communiquez avec le service de la vie étudiante de l'université. Les inscriptions se terminent le 31 mars. Bonne chance à tous!
Réveille à NY et m'endors à DC. Un audio de propagande sur le rap DC. J'ai vu l'Amérique profonde, on s'est perdu dans le main. So, all in the world, on cherche notre chemin. Je parle d'un bon train, me dit celui qui colle avec l'étiquette. Faudra descendre au prochain arrêt, colle l'étiquette. Malgré tout, je me rends toujours à bon port. Chaque school, après school, j'ai l'heure de le voir, mon au revoir. On discute de poésie, étudiants et scholars. Dans une classe à MIT ou dans une salle à Howard. C'est ça, aime dans le métro pour aller dans le Bronx. Bien forger le torse comme couler dans le bronze. Né pour l'ambassade de France, en Costa Rica. Si je me lève à Boston, un bar adore à Providence. Un gros merci à celles et ceux qui m'ont reçu. Souviens-toi, la littération, c'est si simple, la voici. Pour force, c'est full fort, que l'effet se full fil. Les défauts, les farfelus, les bons efforts, la full fil. De ville en fil, à chaque point, on fout le feu. Sans la ligne, en fil, non plus, les rives à plus, c'est full flow. Pour force, c'est full fort, que l'effet se full fil. Les défauts, les farfelus, les bons efforts, la full fil. De ville en fil, à chaque point, on fout le feu. Sans la ligne, en fil, non plus, les rives à plus. J'ai théorisé notre rap qui est dans un segment. Projection, PowerPoint, c'est du rap en segment. Faut reconnaître la basse, celle du pouf pouf. Kick, snap et hi-hat. Tu peux placer ta rime sur deuxième et quatrième. Mais ça, c'est un et deux, faut manipuler la formule. Et puis comment tu rappes, tout est dans comment tu parles. Ce que tu articules clairement où tu marches les syllabes. L'un et l'autre sont efficaces, ça dépend de ce que t'envisages. Chaque outil, son ouvrage, c'est pas une mouche avec une hache. Qui nous amène à l'image et l'emploi des figures de style. Par exemple, métaphore découle souvent de l'impossible. Quand on dit un cœur de glace, ça ne peut pas de cœur en glace. Bien de manque émotionnel, j'ai on décèle aucune trace. Y'avait aussi la rime et puis tellement d'autres choses à dire. J'voulais écrire un 16, parce que classique sous date, c'est. Faut forcer full fort, que l'effet se full fil. Les défauts, les farfelus, les bons efforts, la full fil. De ville en fil, à chaque fois on fout le feu. Sans la ligne en filant plus, les rimes à plus, c'est full flow. Faut forcer full fort, que l'effet se full fil. Les défauts, les farfelus, les bons efforts, la full fil. De ville en fil, à chaque fois on fout le feu. Sans la ligne en filant plus, les rimes à plus.